Bonsoir à tous. Plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et des provinces de la RDC sont sous les eaux chaque fois qu'une pluie diluvienne s'abat. Pour bon nombre des Congolais, cette situation est due au manque de curage des caniveaux et des rivières. La prolifération des constructions anarchiques serait aussi à la base des inondations dans certaines villes du pays. Conséquence, plusieurs dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines sont souvent enregistrées. C'est le cas par exemple de la pluie diluvienne qui s'est abattue mercredi 22 février 2023 sur la ville de Kinshasa et qui a causé plusieurs dégâts et inondations précisément dans la commune de Mongafula. Rappelons aussi que le 13 décembre de l'an dernier à Kinshasa, une pluie diluvienne avait fait plus de 150 morts. Quelles sont, selon vous, les dispositions à prendre pour prévenir les inondations en RDC? Nous en parlons ce soir avec Fini Kakaya. Il est architecte, membre du Conseil de l'Ordre des architectes de la RDC. Fini Kakaya, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Thomas Epouné, architecte environnementaliste, directeur général du cabinet international CAE et DRAC, spécialisé en architecture pluridisciplinaire. Thomas Epouné, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Et Jonas Tchombela, coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Jonas Tchombela, bonsoir.
Bonsoir, madame.
Tous nos efforts pour avoir l'OVD dans cette émission sont restés vains. Vous êtes déjà très nombreux, chers auditeurs des Radio Capi, à réagir au thème de ce soir. C'est le cas de Franklin Kamoyé. Le plus grand problème, ce n'est pas l'inondation elle-même, mais la croissance de la population quinoise et sa concentration dans un rayon de 2000 km², alors que la ville de Kinshasa compte 9000 km² dont 7000 à Maluku demeurent inhabitées. Cette concentration de la population s'accompagne des ventes, des morcellements, des parcelles par des particuliers et des espaces protégés par les agents de l'État. Tout ceci accentue les constructions anarchiques à cause de la non-intervention de l'État et surtout l'absence des décisions punitives. Toubadi Charles, qui nous écrit de Kinshasa, à mon humble avis, sensibiliser la population sur l'insalubrité publique et fixer les sanctions en cas de non-respect reste une des techniques pour prévenir les inondations, car nous observons les déchets plastiques qui jonchent les caniveaux. L'État doit protéger nos vies, c'est-à-dire ne pas octroyer les droits de bâtir partout. À Bukavu Sud Kivu, vous nous suivez sur la 95.3. Et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine.
Vous pouvez continuer à envoyer vos réactions à tech@radioocapi.net.
Les inondations, on en parle encore. La route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi est à nouveau endommagée au même endroit que la dernière fois, c'est-à-dire après le marché de Matadi-Kibala dans la commune de Mongafula. Ce drame est survenu à la suite de la pluie diluvienne qui s'est abattue hier mercredi sur la ville, détruisant ainsi ce tronçon qui était en pleine réhabilitation. Reportage Pascal Massirica.
Le bilan fait état de l'écroulement des avaloirs qui venaient d'être installés il y a quelques semaines, par où était passé le dernier glissement de terre qui avait coûté la vie à une dizaine d'habitants et détruit plusieurs maisons. Non loin de là, sur les chantiers d'une firme chinoise, le flanc gauche, lorsqu'on vient de Matadi-Kibala, s'est également écroulé lors de la pluie diluvienne de ce mercredi, sur une profondeur d'à peu près 30 mètres. Comme lors de la précédente calamité naturelle. La circulation des véhicules est encore interrompue sauf pour les piétons et les motos. Du coup, une centaine de conteneurs transportant divers produits venus de la province voisine du Congo central sont bloqués de l'autre côté au motif que leur passage risque de provoquer le pire. Comme si cela ne suffisait pas, le prix du transport à moto est passé de 1500 francs congolais à 2000 francs congolais de Mitendi à Matadi-Kibala.
Fini Kakaya. Je rappelle que vous êtes architecte, membre du Conseil de l'Ordre des architectes de la RDC. Plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa et même des provinces de la RDC sont sous les eaux chaque fois qu'il y a une pluie diluvienne qui s'abat. Conséquence, plusieurs dégâts matériels importants, des pertes en vies humaines sont souvent enregistrées, des inondations dans plusieurs quartiers et villes de la RDC. Qu'est-ce qui pourrait être à la base de ces inondations à Kinshasa et dans certaines grandes ville de la RDC?
Merci beaucoup, madame. commence par corriger d'abord mon nom, c'est Mfuni. Mfuni Kakaya, c'est ça mon nom. Je crois que le problème majeur, c'est d'abord le lotissement lui-même. Est-ce que le lotissement se fait en règle? Il y a des règles pour faire un lotissement. Alors, quand on ne respecte pas déjà la base, on ne respecte pas le début, on ne respecte pas les règles ou les normes qui régissent un lotissement, on arrivera toujours à des problèmes.
Et quelles sont ces règles? Cette émission est aussi pédagogique hein, pour les auditeurs qui nous suivent en ce moment.
Exactement. Les règles sont que quand on va faire, quand on doit urbaniser, quand on doit faire un lotissement, il faudrait d'abord qu'on tienne compte de ce qui viendra dessus. Et avant qu'on commence à construire les maisons, on doit canaliser les eaux, on doit amener l'énergie, on doit amener l'eau sur le site. On doit savoir comment est-ce que les eaux usées seront évacuées. On doit savoir comment est-ce que les immondices seront évacuées. Toutes ces choses-là se préparent à l'avance et on fait les infrastructures par rapport à cela. Alors, quand on ne fait pas cela, on se retrouve dans une zone comme à Kinshasa ici, nous sommes sur un terrain sablonneux. Dès qu'on commence à faire le lotissement, vous allez voir que les érosions commencent toujours par là où les gens passent, par là où les véhicules passent. Pourquoi? Parce que quand on est en train de passer, on est en train de faire les routes, on désherbe. Or, c'est l'herbe qui retient le sol. Quand on a enlevé l'herbe et que on vient faire maintenant des maisons, ce qui fait que l'eau de ruissellement a augmenté par rapport parce que il y a des surfaces qu'on viendra couvrir. Quand on couvre les maisons, il y a une augmentation de l'eau de ruissellement. Et quand il y a l'augmentation de l'eau de ruissellement, il y a aussi la vitesse qui augmente. Et ces eaux-là sont généralement canalisées vers la route. C'est ainsi que vous allez trouver que les érosions qui se font toujours le long des routes, le long de là où on a tracé les routes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, pour les zones qui avaient été lotissées il y a longtemps, s'il y a des inondations, c'est parce que tout simplement les exutoires sont souvent bouchés, et les lits des rivières sont occupés anarchiquement, ce qui fait que l'eau qui devait rester dans la rivière ne sait plus rester dans la rivière et l'eau est en train de rentrer vers la ville. Ce sont ces deux choses-là qui sont, à mon avis, à la base de tout ce que nous avons comme érosion d'abord et puis inondation.
Qui est responsable de tout cela?
Le premier responsable, c'est l'autorité publique. C'est l'autorité publique. Parce que pour qu'on aille construire, il faudrait avoir le permis de construire. Et même là où on construit, où il n'y a pas de permis de construire, il y a la police qui est là. La police ne joue pas son rôle. Or, nous savons que la police, son rôle, c'est effectivement d'éviter qu'il y ait des désordres dans la cité. Parce que le rôle de la police, c'est non seulement la protection des individus, mais la protection aussi des biens de ces individus. Alors, vous trouvez que là, vous allez remarquer que partout là où il y a un poste de police, surtout ici à Kinshasa, il y a un désordre qui se crée autour. Il y a un petit marché qui se crée autour, il y a un stationnement, un parking qui se crée autour, il y a tout un désordre qui se crée autour de la police. Parce que finalement, la police, on croirait que la police, son rôle, c'est seulement de récolter l'argent des véhicules qu'on vient déposer, des motos qu'on vient déposer, et de récolter l'argent dans tout ce petit marché qui se crée autour du commissariat de police. Alors que le rôle de la police, c'est de mettre de l'ordre dans la cité. Donc, le premier responsable de ce qui nous arrive, c'est le pouvoir public qui ne joue pas son rôle, qui refuse de jouer son rôle, tout simplement.
Mais est-ce que la population n'a pas une part de responsabilité?
La population a aussi sa part de responsabilité. Mais la grande responsabilité incombe à l'État. On a déjà arrêté combien de personnes qui ont jeté les bouteilles dans la rivière, qui ont jeté les immondices dans la rivière. On n'a jamais arrêté, on n'arrête personne. Parce que ça n'intéresse pas la police. Parce que si la police jouait un tant soit peu son rôle, je crois qu'on n'arriverait pas à tout cela. Parce que vous allez remarquer, je vous ai dit que c'est autour de là où il y a les postes de police que vous allez trouver tout un désordre qui s'organise autour de ce poste de police. Pourquoi? Parce que la police recueille de l'argent de tous ceux qui ont des activités autour. Donc c'est l'argent qui les intéresse, les 1000 francs, les 2000 francs qu'on paye pour garder les véhicules, garder les motos, qu'on paye pas les mamans là qui vendent les pains, qui vendent les bananes, qui vendent toutes ces choses-là autour de la police. Alors que c'est autour de la police où on devait d'abord trouver de l'ordre. Quand il y a déjà du désordre autour de la police, le policier lui-même ne connaît pas son travail. C'est un grand problème.
Founi Kerkaya, il y a quelques années dans la ville de Kinshasa, on va prendre l'exemple de la ville de Kinshasa, on n'enregistrait pas ce genre de dégâts, ce genre de situation. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Voir par exemple le boulevard inondé, l'avenue des Huileries inondée, 24 ans, n'en parlons même pas. Alors qu'est-ce qui a changé entre-temps?
Entre-temps, vous l'avez si bien dit au début de l'émission là, il y a la population qui a augmenté dans la ville de Kinshasa, ça c'est un fait. Mais il y a un problème sérieux, c'est qu'il y a des collecteurs qui amenaient de l'eau vers la rivière de la Gombe, par exemple, quand on parle de Huileries. Il y a des collecteurs qui amenaient de l'eau vers le fleuve. Tous ces collecteurs ont été bouchés. Pourquoi? Parce que on a loti. On a loti au-dessus des collecteurs qui amenaient les eaux vers le fleuve, qui amenaient les eaux vers la rivière de la Gombe. Ce qui fait que cette eau ne sait plus où aller. Ne sait plus où aller. Et tout ça, quand je suis en train de marteler pour dire que c'est le pouvoir public, parce que quand on doit réaménager, nous, par exemple, le boulevard du 30 juin, on l'a réaménagé, mais on l'a réaménagé sans... À un certain moment, on se disait que dès que les Chinois arrivent, c'est fini, ils vont faire le travail. Non, mais tout travail doit être planifié, tout travail doit être étudié, on doit étudier. Est-ce qu'il y a eu augmentation de l'eau de ruissellement? Oui. Est-ce que ces caniveaux-là peuvent encore contenir ces eaux? On doit les redimensionner. On n'a pas redimensionné. Par contre, on a encore bouché. Il y a un caniveau qui est juste au niveau de l'Interpol, là-bas, qui a mené de l'eau vers la bretelle qui va vers l'arrivée de la Combe, qui a été complète, qui a vraiment été supprimée par les Chinois qui ont fait le boulevard du 30 juin. Donc, ce sont ces choses là-bas. Quand on dit qu'au départ, on doit faire des études, c'est du sérieux. On ne peut pas seulement appeler, on dit non, ah, les Chinois vont venir, ils vont faire. Mais il va faire quoi? Un Chinois, c'est un commerçant, comme tous les autres commerçants. Donc, c'est l'État qui doit suivre les règles des lotissements. Donc, on fait d'abord les études convenablement, on recrute un entrepreneur qui doit exécuter le travail et on le contrôle. On ne contrôle pas même les gens qui font le travail. On ne les contrôle pas. Chaque fois que moi, je vais dans un chantier qui est dirigé qui est exécuté par les étrangers, vous allez trouver le fonctionnaire dirigeant qui doit être sur le chantier. Souvent, il n'est pas là. Il est dans un ganda quelque part où on lui donne à boire et à manger par l'entrepreneur. Ce qui fait qu'il ne suit pas ce que l'entrepreneur est en train de faire. Moi, je suis au niveau des champs de tir. On vient de faire la route de l'escorte. Bah, avant de faire cette route-là, l'eau n'entrait pas dans ma parcelle. Mais aujourd'hui, j'ai le retour de l'eau dans ma parcelle. Alors qu'on vient de faire, on vient d'assainir la ville, le quartier, on vient de faire les routes. Donc les routes, au lieu que ça puisse... soulager, ça puisse résoudre un problème. Ça a amené par contre des problèmes à toutes ces parcelles qui sont tout autour de la route, à tous les riverains. Ils ont mené nous avons des problèmes sérieux d'inondation dans presque toutes les parcelles qui sont sur l'avenue Mama Emo et sur l'avenue Escorte présidentielle. Alors qu'on vient de faire la route.
Thomas Epouné, vous êtes architecte environnementaliste, directeur général du cabinet international CAE et DRAC. C'est un cabinet spécialisé en architecture pluridisciplinaire, inondation, situation ou phénomène normal, naturel, qui peut arriver n'importe où c'est une situation qu'on peut éviter.
Merci madame de me passer la parole. Tout à l'heure, le confrère qui a pris la parole précédemment a évoqué les causes immédiates, mais il faut remonter aux causes un peu plus lointaines. La plupart de nos villes en Afrique ont été choisies par les colons. Et les capitales étaient choisies en fonction de la proximité d'avec les cours d'eau et la mer. Et nous savons que de toutes nos capitales, quasiment les grandes villes africaines, sont très inférieurement situées par rapport au niveau de la mer. Ça, c'est sur le plan géographique. Ça, c'est le premier problème de toutes nos capitales. Deuxièmement, c'est les politiques publiques en termes d'assainissement et de gestion de la chose urbaine. Ça, c'est l'autre gros problème. Et tout à l'heure, le confrère vous a cité quelques exemples de désordre urbain installé dans la ville de Kinshasa, mais c'est exclusivement lié aux politiques publiques qui sont totalement médiocres dans la plupart des États africains. Et vous pouvez imaginer un seul instant que jusqu'en plein 2023, certains capitales africaines continuent à utiliser du tout à l'égout. Tout à l'heure, le confrère vous parlait du refoulement des eaux dans les parcelles. c'est la mauvaise politique de drainage du tout à l'égout. C'est-à-dire qu'on continue à considérer que l'État doit collecter les eaux. Pourtant, en matière d'aménagement, d'assainissement et d'urbanisme, il est question de créer des pôles de développement, de traitement des eaux pluviales et usagères dans les lotissements. Ça, c'est la chose la plus élémentaire. Et puis maintenant, sur le plan même socio-économique...
C'est qu'il n'existe pas pratiquement dans les grandes villes africaines, ou précisément à Kinshasa. Ouais.
Ça, c'est ce qui est vécu à Kinshasa est vécu quasiment dans les grandes villes africaines. Ce que j'étais en train de vous expliquer de manière pratique, c'est qu'il faut sensibiliser au maximum les populations avec la démographie croissante, de faire comprendre aux gens que les immondices qui sortent de nos différents ménages, c'est du diamant. Au lieu de déverser ça dans les rigoles, il faut plutôt un système de collecte, de tri et de réexploitation des immondices pour créer de l'emploi et de la richesse dans nos différents foyers. Ça va diminuer énormément le chômage dans nos différents quartiers et ça produira de la richesse en fait. Hein. Voilà.
Les éléments, faire ça, oui. C'est l'État ou bien ce sont des particuliers?
Ça, c'est à tous les niveaux. On ne peut pas passer le temps à indexer l'État parce que l'État, c'est qui? L'État, c'est nous, l'État, c'est vous. Il faudrait que les collectivités décentralisées, les collectivités locales, à partir des quartiers, à partir des agglomérations, se prennent en charge. Ça, c'est élémentaire.
Alors, il y a certains Congolais qui pensent que c'est le manque de curage des caniveaux et les constructions anarchiques qui sont à la base des inondations dans la ville de Kinshasa et dans certaines autres villes de la RDC.
Non, pas totalement, pas totalement. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez des villes ici en Afrique où il y a par exemple des tanches, il y a des habitats de manière spontanée. Ça existe dans toutes les villes, mais c'est le savoir, c'est la manière à pouvoir se prendre en charge et à savoir contenir ça qui est le plus important. En fait, c'est un problème de politique publique en termes d'assainissement et de régulation des déchets ménagers par foyer. C'est tout ce qu'il faut pouvoir envisager. On peut résorber. Tout à l'heure, vous-même, vous avez posé la question aux confrères de savoir pourquoi il y a quelques années, à Kinshasa, ce n'était pas le cas et maintenant, c'est le cas. Parce qu'on continue à appliquer la politique du tout à l'égout. On considère que tous les déchets ménagers et les eaux ménagères doivent aller vers le dimensionnement des caniveaux publics. Ça, c'est une erreur monumentale.
Merci. Jonas Tchombela, vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. La population est aussi en partie responsable des inondations ou des dégâts après les pluies que nous observons à Kinshasa et dans certaines villes de la RDC. Je crois qu'on a perdu Jonas Tchombela. La réalisation va essayer de le rappeler pour le ramener dans le débat. Sur mon problème de ligne téléphonique. Founi Kakaya, en attendant d'avoir Jonas Tchombela au téléphone. Il y a aussi un problème de sensibilisation de la population sur l'insalubrité publique.
Il y a un problème de sensibilisation. Il faudrait que la population soit sensibilisée pour qu'elle puisse être consciente que la manière dont elle agit est en train d'influer sur l'environnement, comme l'a dit le confrère. Mais tout ça doit être canalisé, doit être structuré. C'est l'État qui doit parvenir à faire des structures, même si ces structures sont animées par des particuliers qui ne sont pas nécessairement le pouvoir public. Mais il y a quand même un besoin de planification qui est important. Et cette planification, elle doit venir de la tête. Parce que la tête, c'est l'État. L'État doit impulser cela.
Quelles sont les dispositions qu'il faut prendre pour prévenir les inondations, Founi Kakaya?
Il faudrait que quand, par exemple, on est en train de faire un lotissement pour le nouveau site, que le lotissement soit fait selon les règles de l'art. Qu'on ne puisse pas venir chevaucher là-dessus. Parce qu'actuellement, le lotissement, c'est quoi? C'est juste un terrain qui est là. On vient, on fait un quadrillage, on donne des parcelles aux gens, on dit « allez construisez ». Non, ce n'est pas cela. Parce que quand on a déjà construit, il y a des difficultés qui viennent dans le sens où on n'a pas calculé la quantité de l'eau de ruissellement qui va augmenter. On n'a pas calculé quel type de route on va faire. Il y a eu un problème dernièrement où on faisait des routes ici à Kinshasa. Et l'entrepreneur est en train d'utiliser un compacteur. Au lieu de le régler à une fréquence moindre, il a mis à une autre haute fréquence pour éviter de faire plusieurs passes. Ce qui fait qu'il y a des maisons qui se sont retrouvées avec des fissures. Chez moi, je me suis retrouvé avec la barrière arrachée. Donc ce sont ces choses-là qu'on doit prévenir à l'avance. Il faudrait que, en faisant le lotissement, qu'on fasse les routes, qu'on fasse tout ce qu'il faut, qu'on sache les immondices, on les mettra où, même si on doit les recueillir plus tard, comme a dit le confrère. Actuellement, les immondices sont c'est de la marchandise, parce que il y a des gens qui les prennent, qui les recyclent, tout ça, ça crée du travail. Mais ce sont des choses qui doivent être planifiées. Tout doit être planifié, tout doit être étudié. Il n'y a rien qui doit se faire au hasard. Mais maintenant pour les endroits là où les anciens sites, là où il y avait déjà des maisons et là où il y a maintenant des inondations qui se présentent, il faudrait qu'on vienne recalculer pour voir s'il y a eu augmentation réelle des eaux de ruissellement pour redimensionner les caniveaux. Alors là où on ne cure pas les caniveaux, qu'on les cure, là où les collecteurs ont été bouchés parce qu'on a fait un lotissement dessus, qu'on enlève toutes ces maisons qui sont sur ces collecteurs, qu'on dégage la zone de lotissement, qu'on dégage les lits des rivières, je crois qu'il n'y aura pas de problème.
Alors, construire une nouvelle ville, délocaliser la population vers Maluku, est-ce que ça serait une des solutions ou ça serait parmi les solutions pour éviter les inondations à Kinshasa, par exemple?
Oui, ça serait une des solutions, mais à condition qu'on respecte les règles de l'art en matière d'urbanisation, en matière de lotissement. Parce que si on ne le fait pas, on aura toujours des érosions. On aura toujours des érosions, on aura toujours des inondations. Donc il faudrait que le pouvoir public puisse vraiment jouer son rôle, faire son travail. En amont et en aval, en amont, c'est-à-dire on fait des études, on les exécute convenablement. En aval, c'est-à-dire que qu'il y ait des brigades, qu'il y ait la police, pour que je sois sanctionné tous ceux qui vont enfreindre les règles de vie dans la ville.
Ce sujet intéresse beaucoup les Congolais qui nous suivent en ce moment partout en RDC, sous la fréquence FM. Founi Kakaya, on va se rendre à Bounia, dans la province de l'Ituri, pour écouter le point de vue de cet auditeur.
C'est David Soumaïl Moussafiri depuis la ville de Bounia, dans la province de l'Ituri. Il faut reconnaître que ce problème est réel, mais je pense que la responsabilité est partagée. Souvent, nous sommes soupés d'accuser le gouvernement d'être responsable du fait qu'il n'y a pas suffisamment l'écurage des caniveaux et des rivières, mais nous oublions notre part de responsabilité. Quand nous jetons des saletés partout, ce n'est pas le gouvernement qui nous demande de le faire. Et quand nous construisons un architecte tenant tête haute aux instructions des services appropriés de l'État, ce n'est toujours pas le gouvernement qui nous l'oblige. Et donc, avant d'accuser n'importe qui ou n'importe quoi, nous devons nous aussi faire les choses avec rationalité pour éviter les dégâts dans l'avenir. Le gouvernement ne peut rien faire si nous-mêmes nous nous montrons inconscients et insouciants de notre bien-être. Être juste, c'est aussi savoir faire son devoir. Les jours où nous allons commencer à nous autodiscipliner au sujet de la propriété et des constructions anarchiques, je pense que nous aurons la chance de voir un possible Congo sans dégâts matériels d'inondation.
Founi Kakaya, commentaire par rapport au point de vue de David qui nous a appelé de Bounia.
Oui. Merci beaucoup David pour son intervention. Je suis d'accord avec David, mais le point essentiel reste toujours l'impunité. Parce que dans une société, quand les règles sont bafouées, quand on ne punit pas, rien ne peut marcher. C'est la punition qui redresse l'homme, qu'il soit blanc, qu'il soit noir, qu'il soit jaune. Là où il n'y a pas de punition, il y a le désordre qui s'installe. Et la punition, c'est l'apanage du pouvoir public, c'est l'apanage du gouvernement, c'est l'apanage de la police.
Thomas Epouné, on va prendre aussi pour vous cet autre auditeur qui nous appelle depuis la ville de Bukavu. Nous sommes là dans la province du Sud Kivu.
Robert Bahome de Bukavu au Sud Kivu. Tant on ne cure pas les caniveaux et les rivières et qu'on ne cesse pas non plus avec des constructions anarchiques, il est tout à fait vrai et évident de s'attendre toujours à des inondations à la tombée de pluie diluvienne. Néanmoins, cette situation est évitable si l'on veut bien. À cet effet, il n'y a pas beaucoup de dispositions à prendre. L'unique solution efficace et définitive à ce problème est que l'État devrait mettre en place ou du moins instituer un service public permanent avec des moyens conséquents qui se chargeraient des curages réguliers des caniveaux et des rivières à travers tout le pays. et le risque des inondations lors de la tombée des pluies diluviennes serait sensiblement réduit.
Thomas Ipouné, qu'est-ce que vous pensez de la proposition de Robert qui nous a appelé depuis Bukavu, mettre en place un service public permanent avec des moyens conséquents qui se chargeraient des curages réguliers des caniveaux et des rivières à travers le pays? Est-ce que ça pourrait réduire sensiblement les dégâts?
Oui, madame, la proposition, elle est très bonne. Hein. C'est-à-dire que je vous ai dit ça à l'entame de mon propos, que c'est un manque criard de politique publique hein, qui amène à ce genre de solution. Mais maintenant, ce que le frère propose depuis Bukavu, c'est simplement d'amener, de sensibiliser au maximum les populations à faire comprendre. C'est-à-dire qu'on dit en Afrique, quand on est pauvre, il faut être propre. Le remède de la pauvreté, c'est la propreté. Donc, il faut que les gens arrivent à se discipliner, que dans les quartiers, on essaie déjà d'implémenter les centres de tri et de recyclage. Imaginez un seul instant que dans nos différents quartiers, que ce soit à Bukavu, que ce soit à Kinshasa, que ce soit à Matadi, quelle que soit la ville où on se trouve, ou à Lubumbashi, qu'on essaie dans chaque quartier d'implémenter des centres de recyclage et de tri. Vous pouvez imaginer ce que ça va faire en termes de boostage sur la gestion de chaque quartier, de chaque agglomération. Alors, vous pouvez imaginer un seul instant?
Aujourd'hui, on a vu que le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa a entamé des travaux, hein, des curages, des caniveaux. On a démoli les constructions anarchiques. Mais malgré ça, on a quand même ce problème d'inondation à Kinshasa. Comment ça s'explique?
C'est évident dans la mesure où on essaye de faire du saupoudrage, quoi. C'est-à-dire qu'on ne touche pas les solutions à la racine. C'est ce qu'il faut faire aujourd'hui. C'est-à-dire que tout ce qu'on essaie de faire, c'est de limiter pour un temps soit peu. Encore que nous sommes en zone tropicale humide, donc on a des saisons. Donc quand la saison sèche arrive, il n'y a pas ce genre de problème. Quand on est en saison de pluie, il y a ce genre de problème. Mais il faut attaquer le problème à la racine. Comme le frère de Bukavu parlait tout à l'heure. C'est d'attaquer le problème à la racine. Et ce n'est pas qu'une affaire de gouvernement. C'est une affaire de sensibilisation de la grande masse. Et nous tous, nous sommes fondus dans la grande masse. Donc, c'est ce qu'il faut envisager le plus tôt possible.
Donc, vous pensez que la première chose à faire, c'est la sensibilisation, sensibiliser la population, et le reste viendra de soi?
Oui, ça veut dire qu'en fait, on est encore dans des politiques du tout à l'égout. On considère que non, tout ce que nous avons comme déchets dans nos maisons, on doit pouvoir mettre dans la voie publique pour que l'État gère. Mais nos États, ils ont quels moyens? Il est simplement question aux agents de l'État de mettre un peu plus de sérieux dans la gestion de la chose publique. De laisser de se continuer à faire croire qu'il y a de l'argent. Il n'y a pas d'argent. C'est plutôt de créer des pôles de développement au sein des agglomérations et au sein des différents quartiers.
Thomas Ipouné, les inondations que nous voyons dans les pays occidentaux, les pays développés, est-ce que les raisons de ces inondations sont les mêmes que celles des pays africains, et particulièrement de la RDC?
Non, c'est pas la même chose. En fait, je vous ai parlé des causes lointaines, des causes coloniales. Vous savez, les occidentaux qui sont venus en Afrique, ils ont fait les mêmes choix que chez eux, en choisissant nos capitales juste à proximité des cours d'eau. Je vous prends une ville, 7 jours en Amsterdam par exemple, que ce soit Paris, que ce soit Bruxelles, on est toujours à côté d'un cours d'eau. Et dans la plupart de nos États, le niveau de la mer est plus élevé que le niveau de nos villes. Quand vous arrivez par exemple aux Pays-Bas, ils ont pu gérer ces problèmes en faisant des digues et en faisant des remparts tout autour de la ville. Mais nos villes sont des villes cuvettes. Quand le niveau de la mer est plus élevé que nos villes sont des villes cuvettes. En fait, c'est des villes qui prennent beaucoup d'eau en temps normal. Et après, le drainage devient un sérieux problème.
La réalisation me signale que Jonas Tchombela est en ligne. Jonas Tchombela, rebonsoir.
Rebonsoir.
Vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise. Alors, on revient encore sur ce problème d'inondation dans la ville de Kinshasa. Oui. Conséquences, plusieurs dégâts matériels importants, des pertes en vies humaines souvent enregistrées. Quelles sont, selon vous, les dispositions que le gouvernement devrait prendre pour prévenir les inondations en RDC?
Oui, ce qui est en train d'arriver à notre pays, comme l'a dit mes prédécesseurs, est clairement bien établi qu'il y a déficit de l'autorité de l'État. On ne peut pas comprendre dans un État où ceci s'est répété plusieurs fois et qu'il y a une politique qui doit être mise en place pour faire face à la situation. On se rappellera de ce qui s'était passé, je vois, quelques années sur le pont Makelele, pour ceux qui connaissent la ville de Kinshasa. Il y a encore des morts et on n'en a pas tiré des leçons. Ça continue de se poursuivre, on ne tire pas des leçons. On nous fait du saupoudrage avec ce que nous sommes en train de voir comme spectacle. Après, il n'y a plus rien. Voilà. Donc, l'État congolais, déjà, devrait réfléchir sur cette question, sur deux volets. Le premier volet, le volet des vieilles, comment continuer à gérer les vieilles villes avec tout ce qui est compression démocratique, démographique, j'allais dire, de la population au niveau des nouvelles villes, des vieilles villes. Et des nouvelles villes qu'il faut créer. Mais on a un peu de potir, sans des règles urbanistiques. Et tout cela, c'est un désordre apparemment organisé par ceux qui sont censés mettre de l'ordre. Les gens construisent sur des caniveaux. C'est qu'est-ce qui se fait là? Vous verrez qu'au bout de 3 ans ou 2 ans ou une année même, nous allons revenir à ce que nous avons décrié il y a longtemps. On ne tire même pas de ressources. C'est comme si c'était des mouches qui mouraient. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut recadrer les choses, évaluer comment continuer à gérer une vieille ville parce qu'il y a une pression démographique qui est très élevée. Dans des vieilles villes, les gens se concentrent dans les vieilles villes. Comment faire pour casser cette pression démographique sur les vieilles villes et créer de nouvelles cités? Oui, toutes les institutions, par exemple, qui sont centrées dans un seul coin, alors qu'il y a des communes comme Nselé, comme Maluku, où on pouvait encore loger d'autres types d'institutions, ça pouvait créer une sorte de diminution de la pression démographique sur les vieilles villes. Donc, ce qu'ils peuvent encore faire, c'est payer dans des communes de brigades d'assainissement pour aider la population à comprendre. Effectivement, la population a une part de responsabilité à cela, mais c'est l'État qui est censé protéger et donner l'information qu'il faut, mais c'est le même État qui trompe sa propre population. Donc, il y a un problème. D'abord, on peut créer des brigades d'assainissement dans chaque commune pour surveiller d'abord le problème d'assainissement de l'environnement, des caniveaux qui sont bouchés, des connecteurs où on a construit dessus. Comment faire pour que cela puisse s'arrêter, que l'eau coule facilement, pour qu'il n'y ait pas ce dégât que nous sommes en train de créer. Donc tout cela dépend et du ministère de l'Environnement, et du ministère des Affaires foncières, et du ministère de l'Urbanisme. Tous ces gens ont tout intérêt à réfléchir des choses qui nous reviennent régulièrement, mais nous sommes incapables de trouver la solution. La population elle-même aussi, même si elle est sensibilisée, quand elle sait qu'ils vont revenir là-dessus, il faut qu'il y ait aussi la sanction. La sanction ne suit pas. La sanction, non seulement à l'endroit de la population, mais la sanction aussi à l'endroit des autorités qui n'arrivent pas à faire respecter les règles du jeu. Pour autant d'éléments qu'il faut prendre en charge et créer même une sorte d'état de liens qui peut être organisé pour que ceci, quand même, s'arrête à un certain moment. Et sinon, c'est la répétition, c'est comme si on n'en tire pas de leçons.
Alors, la sanction, ça serait quoi, par exemple? Donc, vous rejoignez Funi Kakaya qui a parlé qui a résumé tout ça en un mot, l'impunité. La sanction serait quoi pour pousser les gens à ne plus, par exemple, jeter les immondices dans les caniveaux, à ne plus construire sur les collecteurs, faire des morcellements en désordre, construire anarchiquement?
Mais qui donne ce certificat d'enregistrement? Qui donne ces documents parcellaires? C'est l'État. Donc l'État lui-même doit déjà commencer à se remettre en question. Quelqu'un que vous donnez le certificat d'enregistrement, qui est sur un collecteur, il va construire là-dessus, vous dites que restez là, parce que vous êtes frère d'un général, vous êtes frère d'un tel monsieur, il va vous arriver, comme il y a un général à votre côté. Voilà, autant de cette impunité qui a été décriée par le compatriote tout à l'heure. Elle est consacrée maintenant à une règle, ce qui est très dangereux. Parce que là, nous avons perdu même le sens même de l'homme, de la vie d'un homme. On le lotit là où il est. Donc, cet homme qui donne le certificat d'enregistrement, ou qui donne le document parcellaire, sur le collecteur, ou sur le caniveau, cet homme devrait s'en sanctionner. Et la personne qui a accepté d'habiter à cet endroit, elle doit aussi être sanctionnée. Donc, autant de sanctions qui peuvent être prévues, s'il peut même voir les lois pour améliorer les conditions d'assainissement de nos villes, pourquoi pas ne pas le faire? C'est là aussi la question des parlementaires. Ils ne sont là que pour des motions qui n'ont rien à faire avec un bêtise humaine, que nous sommes en train de perdre presque chaque jour. Il n'y a rien qui est fait au niveau du Parlement. Donc, si on me donne le loi pour qu'on ait des sanctions, je crois que ça ne poserait aucun problème. Le problème pour nous, c'est l'homme qu'il faut à la place pour qu'il fait défaut.
Alors, c'est pas aujourd'hui qu'on parle des inondations à Kinshasa ou même de l'assainissement de nos villes en RDC. On en parle, mais rien ne change. On a l'impression que rien ne change. Est-ce que c'est un problème de manque de volonté de pouvoir améliorer ou faire avancer les choses ou améliorer la situation?
Il y a un problème de volonté politique réelle. Il y a absence, même déficit, de la politique de la protection de l'environnement dans notre pays qui n'est pas assez très bien formulé. Il y a un problème aussi des hommes qui animent ces institutions. Il y a aussi un problème de la mentalité même de la population elle-même qui est dans ce genre de type pratique. Donc, il y a beaucoup de dégâts au niveau humain, au niveau des bénéficiaires, comme au niveau des décideurs. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est chercher comment casser cela par la sanction, la loi. Elle est dure, mais elle est là. C'est la loi. Donc, il faudra qu'on y arrive. Si on peut faire du trompe-l'œil, les gens vont connu dans cette ville de Kinshasa, par exemple, l'opération Kine-Bopeto, maintenant c'est Bopeto Kine propre. On a connu tous ces éléments du trompe-l'œil pour détourner l'argent. En réalité, on n'a aucun résultat qui est là. Nous sommes en train de voir les gens dans les rues tournoyer, alors que le vrai problème, ce n'est pas tournoyer dans les rues. On change seulement des mots, on en a connu plusieurs fois, et ça n'arrive pas. C'est pourquoi il faut recadrer cela par une brigade d'assainissement, bien outillée, et renforcer les mesures de la lutte contre l'impunité. Je crois que ça peut nous faire avancer et résoudre cette question des inondations dans la province. Les gens sont le long des rivières, les immondices devant leurs parcelles, pense à des bordes, c'est des cris qui sont lancés partout, aux premières dames, venez nous aider. C'est comme si la première dame devenait une institution. Voilà autant, nous sommes perdus, quoi, le valeur que nous devons avoir dans la communauté. Ces valeurs, qui peuvent le promouvoir, sont à la base même de la dépravation de mer. C'est regrettable pour notre pays.
Alors, vous pointez du doigt les gouvernements, ceux qui dirigent. Mais est-ce que vous, société civile, vous n'avez pas aussi ce devoir-là de sensibiliser la population? On ne vous voit presque pas sur terrain pour sensibiliser la population.
C'est d'abord notre devoir, sacré d'ailleurs, de donner l'information à la population et la sensibiliser. Mais comment ça se passe? Regarde, je vous prends un cas le plus concret. Kine-Bopeto ou bien Kine-Propre, c'est les mêmes histoires, avec les mêmes hommes, avec les mêmes méthodes, qui ne nous amènent pas au résultat. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on monte ce type de projet? Les décideurs mettent dans le système leurs femmes, leurs cousins, créent des ONG à longueur de journée. C'est vers celles-là qu'on va donner leur argent. Ce qui produit les résultats que nous sommes en train de décrire aujourd'hui. On est d'aller vers les vrais acteurs qui ont de l'ancrage de la population, c'est eux-mêmes, ils ont créé une fondation pour utiliser l'argent du contribuable congolais, pour des raisons que nous connaissons tous exactement politiques, mais en réalité, il n'y a rien d'assainissement dans cette affaire. C'est juste garantir à ces électeurs un espace où il y a un 10 dollars ou 5 dollars. On prend les gens non qualifiés, on leur donne de l'argent pour ne rien faire. C'est ça le travail de la société civile. Donc, si on peut auditer, par exemple, l'opération Kine-Propre à Kinshasa ou Kine-Bopeto à Kinshasa, vous allez vous rendre compte que quelles sont les ONG qui sont mises dans le dispositif. Ils ont des liens, il y a un problème de conflit d'intérêts. C'est ce qui ne fait pas bon. Donc, la société civile, c'est notre devoir de sensibiliser. Mais nous, qui pouvons faire ce travail avec plus d'objectivité, nous sommes mis en marge. Mais cela ne nous empêche pas de continuer de le faire. Mais les moyens existent. Mais on les donne à des gens non qualifiés. Nous le crions tout le temps.
Funi Kakaya, nous sommes presque à la fin de notre émission de ce soir. Il y a un auditeur qui parle du désengorgement de la ville de Kinshasa. Lui pense que c'est la meilleure solution pour éviter ces inondations qui sont devenues récurrentes dans la ville de Kinshasa et même dans certaines provinces, dans certaines villes des provinces de la RDC. Qu'est-ce que vous en pensez? Un autre propose même de revoir la loi foncière.
Merci beaucoup, madame. Désengorger la ville de Kinshasa, c'est aussi l'une des solutions, mais ce n'est pas la seule solution. parce que même si on désengorge la ville de Kinshasa et puis on fait une nouvelle ville, on fait un nouveau site, mais on ne respecte pas toujours les règles d'urbanisation, on va toujours retomber dans le même problème. Je crois que la solution, comme l'a dit le président de la société civile, c'est d'abord édicter des règles pour qu'on sorte de l'impunité. Et la deuxième solution, moi je crois qu'il faudrait que nous puissions produire nos normes. Actuellement, on a un problème de normes ici à Kinshasa, parce que les normes que nous avions sont des normes qui datent de l'époque coloniale. Ces normes sont déjà dépassées. Il faudrait que nous puissions voir avec les spécialistes dans la matière pour qu'on édicte les normes qui vont régir tous les secteurs du pays. Parce qu'à ce moment-là, nous donnons à ceux qui contrôlent la matière pour qu'ils puissent maintenant sanctionner ceux qui vont enfreindre ces normes-là. Voilà, c'est ça ma proposition.
Votre proposition, merci Funi Kakaya. On rappelle que vous êtes architecte membre du Conseil de l'Ordre des architectes de la RDC. Thomas Epouné, vous êtes architecte environnementaliste, directeur général du cabinet international CAE. Bar EDRAC, spécialisé en architecture pluridisciplinaire. Votre conclusion, vos propositions pour éviter ces inondations à répétition dans la ville de Kinshasa et même dans certaines villes de la province, des provinces de la RDC.
Ben, tout est dit, hein. Moi, j'insiste là-dessus. C'est qu'il faudrait que les dirigeants se réapproprient les réalités de nos villes et de nos populations, de nos mœurs, quoi. On est trop calqué sur les modèles occidentaux et c'est ça la cause, hein. C'est ça qui nous crée toutes les misères du monde en Afrique. On est trop calqué sur les standards occidentaux. Il faut se réapproprier nos valeurs et repenser nos villes suivant nos modes de vie. C'est tout.
Merci Thomas Epouné. Jonas Tchombela, votre conclusion. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la nouvelle société civile congolaise.
Je crois que nous interpellons ici le pouvoir public qui a la possibilité de réglementer la communauté. Nous interpellons également le parlementaire de revoir notre dispositif de normes en la matière. Mais également, nous interpellons la population de ne pas trop s'exposer en croyant que Dieu va faire ou le sauver à des endroits extrêmement dangereux. Donc, chacun de nous est interpellé là où il est pour que les vies humaines ne soient pas plus en danger de façon permanente et que des solutions que nous y arrivons à ce qu'on puisse réorganiser nos villes de telle manière à ce que les gens vivent en toute quiétude.
Merci Jonas Tchombela. Dialogue entre Congolais, c'est fini pour ce soir. Merci à Dona Madimba qui a réalisé cette émission. Alain Goy était à la mise en onde. Présentation et coordination, Kéline Kouté. Bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.